de mon amour.
C'est une plaisanterie.
Non, c'est pas une plaisanterie,
c'est une partie de boule.
Il est à moi.
Alors je tire.
Denis Chaisson.
Oh, quel beau cul. Bravo, capitaine. Et à 25 mètres.
Capitaine, je vous félicite et je vous respecte.
Tu respectes un tricheur? Il a fait 4 pas.
Moi, j'ai fait 4 pas.
Oui, oui, monsieur, peut-être même 5.
Ah, je te jure, pardon.
Ah non, moi, je joue pas avec un tricheur. Ça commence par une volerie et ça se termine par un empoisonnement. La bouillabaisse de ta femme, je la donnerai pas à mon chien. Et encore, j'ai pas de chien.
Sur France Inter.
Bonsoir, monsieur.
Bon oui, on n'a pas résisté, donc c'était un extrait de Fanny. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine très nature, vous l'avez compris, cette nature qui chuchote à vos oreilles, c'est au de mon amour, avec Clément Berman à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Marion Philippe et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Donc une petite humeur, Corona, c'est mon petit nom. Et on pensait que c'était une marque de bière chiraco-mexicaine, eh ben non. Alors ne me demandez pas d'où ça vient, parce que moi, je suis un virus. Microscopique par principe, bien planqué, silencieux. Alors là, il ne s'agit pas de mettre en carafe vos ordinateurs. Non, on est tous spécialisés. L'informatique, c'est pas ma cam. J'ai pas passé les diplômes de dynamiteur de programme. Mon truc, à moi, c'est le vivant. Je m'invite dans vos cellules et je me réplique en utilisant leur métabolisme. En fait, elles font le boulot et j'en profite. Et hop, après, je fais le lit des bactéries. Mon job, en fait, c'est d'affaiblir, de déglinguer ou d'envoyer aux cieux. Je suis un agent infectieux. Alors, à ce même micro, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais enfin, il y a quand même plus de 10 ans, quand globalement la majorité se fichait de l'environnement, un pharmacien humaniste et visionnaire, Jean-Marie Pelt, et puis aussi un médecin tarnais en quête de pôle, Jean-Louis Etienne, nous disait que certes, les emmerdements viendraient du réchauffement, mais aussi de l'infiniment petit, c'est-à-dire certains insectes, microbes inconnus, et aussi de ma pomme, The Virus. Et ce n'est pas avec un Magnum 49.3 que vous réglerez mon compte. La Terre vit de grandes pulsations climatiques et virales naturelles aussi. Alors le climat, ah bah tenez, tiens, bah je peux vous aider aussi. On en cause beaucoup en Occident, mais comme dans les actes, on sent bien que c'est pas exactement la priorité. Vous avez vu mon effet virus sur les gaz à effet de serre ? Hein, on s'est vite calmé sur l'avion, le tourisme, les manifestations, les échanges, les bourses du monde entier. Moi, le virus, en fait, tout m'intéresse. J'aime bien infecter les végétaux, les animaux, mais l'humain, alors ça m'a toujours fait kiffer. Surtout après 70 ans. Alors, c'est pas la peine d'en vouloir aux chauves-souris, aux civettes, aux pangolins. Au départ, c'est peut-être un peu vous quand même, car depuis 50 ans, vous ne savez plus vous tenir. Eh oui, vous avez contracté le virus, dû, encore et toujours plus. En 30 ans, à coups de tankers, de porte-containers, eh, bonjour les trois quarts de nos médocs made in China. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le profit ou bien la sécurité nationale? Et moi, dans le catalogue des virus, bah, vous ne me connaissez pas aussi peu. Alors, on va pas se mentir. Dans les semaines qui viennent, le monde va baigner dans une grande flaque de peur. Et là, je suis désolé, je vais vous empêcher de vous faire la bise, de vous serrer la main, d'aller voir les matchs de foot, Madonna ou le Salon du Livre. Durant 3 mois, je vais être la star du buzz, la une de BFM et de tous les médias. Virus en mode information virale. Le décompte des gens sur le carreau et des hôpitaux en sous-effectif, ça, on va y avoir droit. Mais, première rassurance, à 95%, on peut s'en sortir à peu près correctement. Eh oui, alors, mais seulement après, c'est vrai que ça peut se compliquer. Ça, je l'admets, je suis plus vacharde qu'une grippe classique et plus gourmand en cercueil. D'autant qu'en hiver, les défenses immunitaires ont souvent le moral dans les chaussettes. Mais deuxième bonne nouvelle, je suis un virus et pas Superman. J'aime l'humidité, le frais, mais quand il fera plus chaud au mois de mai par exemple, eh ben je vais me calmer ou disparaître. Bon, alors inutile, hein, les bouquins de l'ami Christophe André ne serviront pas à grand chose. Et la psychose aussi est inutile. Vigilance et sérénité semblent un bon cap à tenir. Corona, c'est mon petit nom, mais alors ne vous en faites pas, je ne veux pas tous vous mettre en bière. Au menu, vous l'avez compris, direction les Bouches-du-Rhône, donc découverte du parc national des Calanques. Et aussi, ça va être les Calanques avec Ariane Ascaride. Thank you. C'est la playlist Métronomie, The Light. Donc, on a vu la lumière. Où ça? Sur France Inter et dans les Calanques.
Reprends un peu de bouillabaisse. Elle est bonne, hein? Je l'ai faite hier. C'est toujours meilleur réchauffée.
CO2, mon amour.
Prends les soupes au pistou. Non, je te fais une tartine de tapenade.
Denis Chessou.
Non, merci, chérie.
Je t'adore ça, d'habitude.
Je sais, mais j'ai plus très faim.
Sur France Inter.
Allez, le bateau, on y va. Waouh!
On a pour du courage pour monter nos deux.
Dis donc, c'est pas mal quand même, Mathieu Humbert, parce que le bateau s'appelle quand même le Falco.
Eh oui, le Falco. Falco Peregrinus pour le Faucon Pèlerin. Et puis également, c'est un clin d'œil à Albert Falco, voilà, le capitaine de la Calypso.
Et donc là, c'est le départ, donc on quitte ce port. Comment il s'appelle ce port d'ailleurs?
C'est le port du Roucas-Blanc, c'est le centre municipal de voile.
Et la direction, pour bien apprécier donc ces calanques, ça va être une île qui n'est pas loin et qui est connue de tous les Marseillais.
Donc on va sur l'archipel de Riou, donc on va naviguer entre Jarre, Plane et l'île de Riou.
Et on est en fait dans le 8e arrondissement de Marseille, donc une zone tout à fait urbanisée, et on est déjà dans le parc.
Dès le 8e arrondissement, on est déjà dans le parc national. Il y a une bonne partie du parc en fait qui est sur la commune de Marseille.
Et là Mathieu, donc on a quitté ce port.
Donc là on vient de rejoindre le cap Croisette. Ouais. Tout en face de nous, l'île qui est très imposante, là, c'est l'île Maille. Et donc là on va passer par le petit passage là, qui est assez étroit. Et donc là on va découvrir petit à petit le littoral vraiment sauvage naturel du parc national des Calanques.
Calenca, Calenco, les Calanques, Cal Escarpé, donc c'est une petite vallée, vous le savez, qui est creusée par une rivière du sud, et puis après, donc, qui s'offre à la mer. Et en fait, ce sont nos petits fjords à l'accent du midi à nous. Ouais, c'est ça, en fait, les Calanques. Sur plus de 20 kilomètres, c'est une succession dense et de criques, dense avec le Loup, le bar de la Méditerranée, donc sous les yeux. Et les fossiles, donc ces petits bijoux incrustés dans le calcaire, nous disent les sédiments accumulés au fond des mers depuis plus de 100 millions d'années. Mais au 21e siècle, faut quand même y revenir, 1 à 2 millions de sapiens se posent leurs pieds, palmes, bateaux, regards tous les ans sont dans ces lieux de ressourcement, de loisirs, mais aussi de travail, de la pêche. Alors, au printemps 2012, le premier parc national périurbain sort de son bourgeon étatique, mais ici, on est quand même dans une situation bien particulière, parce que ces calanques sont victimes de leur attrait, c'est quand même soumis à un très fort niveau de pression, on s'en doute, et les enjeux de cohabitation entre la ville, Marseille, et l'espace protégé, ça donne quand même gentiment le vertige. Ce parc est donc maritime et terrestre, une grosse partie maritime, végétal et minéral, rural et urbain, et Mathieu Humbert et Patrick Bonhomme, garde du parc, nous accompagnent dans ce massif le plus sec de France, ensoleillé, mistralisé, un jour sur deux.
On arrive sur l'île de Riou, on est au nord de l'île de Riou, dans la calanque de Monasterio.
Et alors en fait, dès qu'on a passé le cap Croisette, ça c'est très intéressant parce qu'on était dans une zone mais totalement urbanisée.
C'est ça.
Et alors là, terre de contraste. Hein.
C'est vraiment ce qui fait la particularité du parc national des Calanques. C'est un parc national périurbain. Dès qu'on a passé le cap Croisette, on passe d'un littoral urbanisé à un littoral entièrement sauvage. Le littoral qui va donc de Marseille jusqu'à la commune de La Ciotat.
Et ça fait partie quand même de ces nouvelles générations de parcs hein, qui ont été voulus à la fois par l'Union Européenne et aussi par le ministère, chez nous en France. Qu'est-ce qui structure ce parc?
Ce qui fait vraiment la force du parc, effectivement, une ambition très forte, c'est la protection du milieu marin et avec la création de zones de non-prélèvement vraiment conséquentes. Là, sur l'île de Riou, on est en plein dans la zone de non-prélèvement dite de Riou, qui est vraiment importante et qui permet de mettre en place un effet réserve sur les peuplements de poissons.
Alors Patrick Bonhomme, donc vous connaissez ça évidemment par cœur parce que vous vous intéressez évidemment à ce milieu marin depuis très longtemps en étant chargé de mission pêche et biodiversité marine. Il a fallu composer avec les pêcheurs.
Oui, il a fallu composer avec les pêcheurs. Ça a été la mission au démarrage du parc d'essayer d'embarquer les pêcheurs. Effectivement, ça n'a pas été partie facile, ouais. Puisqu'effectivement sur la prud'homie de Marseille, une grande difficulté à les embarquer. Il n'y a pas eu de dialogue vraiment instauré. Ils n'ont pas vraiment participé aux réunions de concertation comme ça aurait été souhaitable.
Il y en a qui ne voulaient pas. Hein.
Oui, il y en a qui se opposaient, effectivement. C'était plutôt, si nous ne sommes pas là, ça ne se fera pas en l'absence des pêcheurs. Bon, il y avait d'autres directives à l'époque et une volonté très forte, effectivement, affichée au niveau de l'État français de mettre en place un parc avec des zones de protection fortes. Donc ces zones de non-prélèvement ont été mises en place, notamment sur des territoires qui étaient des territoires très importants pour les pêcheurs, puisque pour certains, aujourd'hui, des territoires comme nous sommes ici pouvaient représenter 80, voire même 100% de leur territoire de pêche. Donc forcément, ils se sont retrouvés contraints à se déplacer et aller vers d'autres territoires de pêche. Donc de manière mathématique, en fait, simplement, on se rend compte que la zone extérieure, en dehors des zones de non-prélèvement, eh bien, se trouve maintenant soumise à une pression de pêche beaucoup plus forte qu'auparavant. Et ce que mettent très clairement en avant, effectivement, les pêcheurs professionnels, c'est qu'à terme, ils finissent, comme ils l'expriment, à blanchir les zones. C'est-à-dire que leur pression de pêche soit telle qu'ils le prélèvent massivement la ressource.
Oui, qu'il n'y ait plus rien derrière.
Ben, c'est-à-dire que la ressource en dehors des zones de non-prélèvement soit effectivement un peu mise à mal.
Lorsque l'on est donc sur une zone comme ça de non-prélèvement, à l'origine, c'est quand même aussi pour qu'il y ait une reconstitution des stocks.
Ah oui, en fait, la zone de non-prélèvement, elle est là pour garantir l'effet réserve. Donc c'est pour que les poissons puissent grandir en taille, grandir en nombre, qu'il y ait une diversité spécifique qui soit plus importante et qu'ensuite il y ait une production de larves importante et qu'ils puissent exporter à l'extérieur de la réserve.
C'est ça qu'il faut faire partager, c'est pareil.
Et ben, c'est ça qu'il faut arriver à faire partager. Dans un premier temps, les réserves s'installent, l'effort de pêche, comme le disait Patrick, s'intensifie à l'extérieur des réserves. Donc le pari n'est quand même pas simple. Moi, à mon sens, il y a aussi un travail qui doit être fait concernant le développement de la pêche de loisirs, parce qu'il y a deux types de pêche, hein, la pêche professionnelle. La pêche professionnelle, il ne faut quand même pas oublier qu'elle est inscrite dans la charte du parc national, hein, elle est considérée comme patrimoniale. C'est une pêche petit métier, avec des bateaux qui sont au maximum à 10 mètres de longueur. Voilà. Et vous avez à côté de ça la pêche de loisirs, qui est aussi tout aussi légitime à pratiquer dans le parc national. Il faut bien voir que la pêche de loisirs, on a de plus en plus d'usagers. Donc il y a une pression de pêche qui est vraiment aussi très très importante. Donc il faut qu'on arrive à voir comment on peut gérer l'ensemble de ces types de pêche pour que les zones à l'extérieur des réserves ne soient pas trop impactées non plus.
Ça fait combien d'hectares ou je sais pas de kilomètres carrés donc cette zone qui est protégée?
Ah bah, les zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, c'est plus de 4000 hectares de zones qui sont vraiment interdites au prélèvement. Donc c'est pêche des poissons, c'est prélèvement du corail, c'est les oursins, les cailloux, tout est interdit en fait au niveau des prélèvements. Ouais, donc plus de 4000 hectares de protection forte. Moi, ce que je trouve intéressant dans la pêche petit métier de Méditerranée, c'est que moi, je me refuserais d'acheter du poisson d'Atlantique. Je veux dire, j'ai rien contre le poisson atlantique, mais dans la mesure où il y a des pêcheurs à côté de chez moi, j'aime autant aller sur le port et prendre le poisson qu'être dépêché localement. Tout ça dans l'idée de circuit court.
On a encore la chance d'avoir des pêcheurs professionnels, donc effectivement c'est aussi un des objectifs très forts des parcs nationaux, c'est vraiment de soutenir cette pêche professionnelle aux petits métiers. Donc on parle bien des petits métiers, on parle de navires de petite taille qui vont faire du filet, qui vont faire du palangre, qui vont faire des nasses, et qui sont des petites unités qui rentrent tous les jours au port, qui partent le matin tôt avant le lever du soleil, qui avant midi sont rentrés à quai 10h30, 11h pour que chacun puisse venir faire sa petite quête du jour et rentrer à la maison et cuisiner effectivement avec du poisson frais. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut conserver, qui est de plus en plus dur pour les pêcheurs professionnels parce qu'effectivement ils sont d'une part contraints par la présence effectivement des zones de prélèvement qui sont quand même relativement importantes sur le territoire, mais aussi par une ressource qui de manière généralisée en Méditerranée décroît de manière très importante.
Alors parlons quand même des Posidonies. Là, ce sont nos pouponnières, ce sont donc nos forêts donc marines. Elles sont absolument indispensables. Elles prennent évidemment un sacré coup lorsque l'on jette une ancre et que l'on arrache absolument tout dessous. Comment on fait? Comment on les protège et comment se portent-elles?
Alors, les herbiers de Posidonie aujourd'hui sur le parc sont plutôt en bon état de santé. On a vu au niveau des limites inférieures qui étaient les zones les plus sensibles puisque c'est un organe, une plante photosynthétique donc qui a besoin de lumière pour croître, et qu'en limite inférieure c'est la limite la plus profonde dans notre région, c'est entre 25 et 28 mètres de profondeur à peu près. On a ces limites qui se sont stabilisées et même à proximité ici de Cortiou, donc de l'exutoire des eaux usées de Marseille, on a à nouveau une recolonisation de ces fonds. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Par contre, effectivement, l'herbier reste menacé, notamment dans les zones comme ici, où on est zone de mouillage, où il y a l'été, la saison estivale, de nombreux bateaux qui viennent mouiller. Certains font attention à l'endroit où ils sont, essayent d'éviter effectivement
les zones sombres. C'est quand même blindé, hein, l'été ici.
C'est blindé. Alors là, on se trouve exactement sur une zone qui est claire, donc on est sur des fonds sableux. Quand on est un petit peu plus loin sur des fonds qui sont un petit peu plus foncés, c'est effectivement signe qu'on est au-dessus d'un herbier de Posidonie. Donc dans ces cas-là, on va éviter de s'ancrer à cet endroit-là. Si on n'a pas le choix, il faudra faire attention qu'on va remonter son ancre, on essaye de l'équiper avec un orin, c'est-à-dire une petite bouée qui signale la position de l'ancre, et on va remonter au niveau de l'orin et retirer l'ancre par l'orin et pas à la force du guindeau électrique.
Petite marche arrière.
Ouais.
On va se recaler comme il faut entre le vent et encore là. Aujourd'hui, ça se passe pas mal quand on n'a pas un mistral monstrueux.
Non, une belle météo là aujourd'hui. Belle météo. Ces derniers temps, d'ailleurs, on a pas mal de mistral. Hein.
Ouais. On a un joli contraste
c'est beau.
Entre un ciel.
C'est vrai que ça change les couleurs.
Les traits disparaissent et on a un bleu là qui est très particulier.
Comment il se manifeste ce réchauffement ici? C'est quoi la traduction?
Bah ici, en fait, ce qu'on voit, ce que les scientifiques commencent à voir, c'est des nouvelles espèces. Les barracudas, par exemple, qu'on ne voyait pas avant. Et donc, ce sont des poissons maintenant qu'on a pratiquement à l'année dans les eaux marseillaises.
Ils sont passés par le canal de Suez, c'est ça?
Ah bah, c'est des espèces qui viennent de la mer Rouge, quoi, des espèces lécepsiennes.
Quand vous dites lécepsiennes, on pense à Ferdinand de Lesseps?
C'est ça.
Ah, voilà.
C'est ça. La personne qui est à l'origine du canal.
Alors on lève les yeux au ciel et là le gabion c'est quel goéland ici?
Ah bah c'est le goéland lecoffé. Voilà, à ne pas confondre avec le goéland argenté. Là, le goéland lecoffé elle est pas jaune, contrairement au goéland argenté qui est pas rose.
Ouais.
Voilà, donc c'est une espèce qui est un oiseau marin, donc lui qui nous ramène à nos problèmes de société, hein, parce que lorsqu'il y avait encore des décharges à ciel ouvert à Marseille, c'est une espèce très opportuniste dont les populations ont explosé grâce à la profusion de déchets. Maintenant, c'est quelque chose qui a tendance à aller à s'améliorer. Les populations reviennent à des seuils plutôt normaux depuis que les déchets sont gérés autrement.
Et alors, est-ce que c'est par là qu'on va trouver des gorgones ou pas?
Alors, les gorgones, il faudra aller un petit peu plus loin, là, en plus en direction de l'est de cette magnifique île de Riou, où on arrivera vers la pointe Caramassel, le Grand Conglu ou le Petit Conglu. Et puis même si on passe au sud, au niveau des impériaux, c'est sans doute au niveau de l'impérial du large qu'on aura les plus beaux tombants de gorgones rouges, la gorgone pourpre, qui vont s'étendre entre 25-30 mètres et jusqu'à 60-70 mètres de profondeur.
Et alors donc, elle a des branches un peu comme des peignes colorées, hein, c'est comme ça?
Ce sont les polypes. La gorgone, on dit qu'elle est pourpre, rouge, mais même elle a des branches qui sont rouges et d'autres jaunes. On parle de la gorgone caméléon dans ce cas-là, et qui est absolument magnifique et qui se révèle pour un plongeur quand il l'éclaire effectivement avec une lumière artificielle, un phare, parce que sinon effectivement la lumière à ces profondeurs-là disparaît, elle ne révèle pas ses véritables couleurs.
Alors là où vous êtes quand même extrêmement aidé aussi, ça je reviens sur le côté maritime, c'est quand même par le procureur de la République.
Tout à fait.
Voilà, parce que très, très souvent, si vous voulez, on va dire, on va instruire quelque chose, on va aller choper des gens, parfait, et puis après, il n'y a pas de suite. Là, c'est pas le cas.
Mais non, c'est pas le cas, parce qu'en fait, tout de suite, le procureur de la République a souhaité mettre en place un groupe opérationnel, et en fait, il s'est vraiment saisi de la création de ce parc pour protéger le parc national des Calanques. Donc en fait, le groupe opérationnel Calanques est réuni à l'initiative du parquet deux fois par an, et avec tous les services de police compétents sur la zone, donc la police nationale, les affaires maritimes, les douanes, les agents du parc national, l'Office national des forêts, enfin tous les agents, je ne vais pas tous les citer. Et donc voilà, et donc le procureur met en place une politique pénale et liste en fait des priorités d'action, donc en phase d'infraction, qu'elles soient maritimes ou terrestres.
Donc derrière ça calme.
Et donc derrière ça calme, parce que en fait tout le monde, déjà tous les agents de police de constatation travaillent dans le même sens, vis-à-vis des personnes mises en cause, ils ont tous la même réponse pénale, typiquement sur la pêche. Et voilà, il faut savoir que toutes nos procédures sont suivies. Quand on relève une infraction, elles font partie d'une liste, c'est une priorité d'action du parquet.
Elle ne reste pas dans le tiroir.
Elle ne reste pas dans le tiroir, donc il y a forcément une réponse pénale qui est apportée. Et c'est ce qui fait qu'on arrive, dès les premières années du parc national, à avoir un effet réserve qui s'installe dans les zones de non-prélèvement, parce qu'il ne suffit pas de mettre sur le papier une zone de non-prélèvement pour qu'elle fonctionne. Derrière, il faut qu'elle soit protégée. Et pour qu'elle soit protégée, il faut qu'il y ait des agents.
Patrick Bonhomme, donc les premiers résultats, qu'est-ce qu'on peut...
Les premiers résultats, c'est qu'en fait, on a vu très rapidement depuis 2013 l'état initial, et en 2016 et 2019, on a les premiers suivis. Et c'est rassurant parce qu'on voit une augmentation vraiment très significative des poissons à l'intérieur des réserves. On est quasiment un facteur 3 en 6 ans. Entre 2013 et 2019. Donc ça, c'est les premiers résultats des comptages qui ont eu lieu cet automne. On est en train d'analyser les données avec les scientifiques. On en aura des résultats plus précis dans les mois à venir. Mais c'est très rassurant, ça fonctionne bien dans les réserves, mais par contre, à l'extérieur, on reste sur des signaux qui sont relativement horizontaux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une pression de pêche qui reste encore très forte à l'extérieur.
Alors, il y a quand même eu des histoires de braconnage, j'ai vu que ça n'avait pas rigolé, parce que il y avait des gens qui allaient pêcher pour les restaurateurs, ils ont aussi aligné donc les restaurateurs, enfin, toute la chaîne était remontée.
Et oui, ben ça, c'était une grosse affaire qui a été montée et pilotée par le parquet. Les moyens qui ont été mis en place pour faire cette affaire sont assez considérables. Il y a une mise sur écoute qui a été mise en place. Donc, du coup, ça a apporté ses fruits puisque donc, les braconniers en fait, ont été attrapés et maintenant jugés. Et c'est vraiment jugé.
Ah, c'est pas fini. On a encore des choses à voir. On ira d'ailleurs sur la Terre et on appellera donc aussi Ariane Ascaride. Vous êtes bien sur France Inter.
À Lille, sur la Grand Place. Un jeu subtil de glace. J'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levée, je l'ai perdu. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sa joue, j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus, c'est là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Voilà, ça c'est agréable, c'était Alain Souchon, donc c'était presque sur France Inter, CO2 Mon Amour. Et donc nous retournons dans ce parc national des Calanques, très représentatif des enjeux de la société actuelle hein, dans sa relation au vivant. C'est-à-dire que aux origines, les parcs c'était fait pour protéger de la destruction, on va dire de l'avidité des hommes. Et aujourd'hui, c'est quand même en protégeant la nature qu'on sauvera l'homme, même s'il n'en est pas toujours tout à fait persuadé. Allez, on y retourne.
Bah, là, juste devant nous, qui passe là dans le ciel, vous avez un footbassan. Donc, c'est un oiseau marin, vous voyez, qui est très blanc avec les pointes des ailes noires. C'est le plus grand oiseau marin de l'hémisphère nord, hein, il fait pratiquement 1m80 d'envergure. Pour revenir sur la partie terrestre, ce qui fait la spécificité en fait, des calanques, c'est surtout les reptiles, avec notamment le lézard rosté, la couleuvre de Montpellier, qui sont vraiment des gros reptiles. Après, on a des gros rapaces nicheurs, on a des rares couples d'aigles de Bonelli de France, donc qui nichent tout près de la ville de Marseille.
Je crois qu'on a à peine une trentaine de couples. Hein,
on a une trentaine de couples, effectivement, sur le territoire français. Après, donc, on a le cirque Jean Leblanc. Pour les,
dans les serpents.
Voilà, qui est vraiment spécialisé sur les reptiles. Il ne chasse que des reptiles.
Et vous avez aussi cet astragal. Alors, l'astragal marseillaise.
C'est l'astragal de Marseille, ouais. Ouais.
Et alors, donc, elle a été évidemment joyeusement piétinée par les randonneurs qui ne savent pas forcément très bien. Elle n'est pas aidée non plus par les embruns marins parce que Lorsque vous avez donc une station d'épuration, ben elle va relarguer aussi ce qu'on appelle des tensioactifs qui viennent des cosmétiques et qui viennent des produits lessivés.
Ouais, des détergents, ouais, des produits ménagers.
Et donc c'est fait pour retirer le gras. Et il se trouve que cet astragale, ces petites feuilles, elles sont grasses pour lutter contre le sel marin.
C'est ça. Et du coup, en fait, les détergents ont pour effet de retirer cette couche de protection et après, c'est le sel qui vient attaquer la plante. Ouais. Donc on parle de nécrose. Donc c'est des populations qui sont encore assez importantes. Mais malheureusement, on constate qu'il y a un recrutement qui est assez faible. C'est-à-dire qu'il y a moins de petits plans qui se développent qu'avant. Voilà, donc actuellement, il y a toute une série d'actions qui se met en place sur le parc national pour renforcer ces populations. Donc aménager les sentiers pour lutter le piétinement, replanter des plants de tulle qui ont été mis en pépinière pour renforcer les populations directement. Voilà,
parce qu'il faut quand même lutter contre l'érosion.
Hein. Oui, c'est ça. Et puis une dernière chose, c'est l'arrachage d'espèces invasives. Parce que c'est vrai, comme on est en milieu périurbain, en fait, il y a des espèces exotiques qui sont plantées dans les jardins et qui peuvent s'échapper petit à petit des jardins, donc comme l'agave ou alors le figuier de Barbarie. Et donc du coup, en fait, ces espèces vont se développer au détriment des espèces indigènes.
La seule chose, c'est l'arrachage.
Il faut les arracher.
C'est du manuel.
C'est ça. En fait, c'est une des causes majeures de déclin de la biodiversité dans le monde, c'est le déplacement d'espèces et c'est la prolifération d'espèces invasives.
Bon, on est quand même bien repéré, il n'y a pas de problème. On amuse les oiseaux, faut bien le dire.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ici, en fait, l'archipel de Riou, il est interdit au débarquement. Il faut savoir qu'avant, le parc national, c'était une réserve naturelle nationale. Et cette réserve a été créée pour la protection des oiseaux marins. Parce qu'ici, donc, on a le goéland locofeu aujourd'hui qu'on voit bien dans le ciel. Ensuite, il y a des espèces qui sont plus discrètes, comme le puffin cendré, le puffin de Scopoli, et le puffin yelkouan et l'océanide tempête. Eux, ce sont des oiseaux qui sont des cousins des albatros, c'est des oiseaux strictement marins, et qui viennent se reproduire sur ces îles. C'est des oiseaux qui nichent dans des cavités, qu'on appelle des terriers, qui sont vraiment très discrets.
Là, on ne doit pas voir un seul humain, on est bien d'accord, ici.
Ah non, ici à terre, non. Alors, sur la colonne de Monastério, on peut débarquer sur la plage, mais après, tout le reste de l'île est interdit à la fréquentation humaine.
Alors parlons quand même aussi un petit peu des choses qui fâchent, parce que dans ce parc, il y a une sortie quand même extrêmement importante des eaux usées de Marseille.
Eh donc, oui, l'exécuteur de Corsiou.
Voilà, on n'est pas si loin que ça. Évidemment que c'est nettoyé, mais pas assez, quoi.
Tout l'enjeu maintenant, c'est d'améliorer la qualité de l'eau. Donc il y a des gros efforts qui ont été faits ces dernières années, avec un traitement biologique depuis 2008. Et puis plus récemment, des bassins de rétention pour canaliser les eaux de pluie lors des orages. Voilà, mais c'est là où après on a besoin de tous les usagers, tous les Marseillais, parce qu'en fait dès qu'on est dans sa cuisine à Marseille, on est en fait en mer, on est en bateau, et dès qu'on ouvre le robinet, tout ce qu'on va rejeter ensuite dans son évier, ça va partir dans la station d'épuration de Marseille, puis après dans le parc national des Calanques. Alors bien sûr, il y a la station d'épuration, mais tous les efforts qu'on pourra faire pour éviter à la station de traiter ensuite derrière, ça sera toujours ça de gagner sur le milieu marin ensuite.
Alors parlons aussi un petit peu des boues rouges, donc à Gardanne. Alors,
je pense qu'on ne peut plus parler de boues rouges. Je risque de vous interrompre.
Mais
en fait, depuis 2015, depuis le nouvel arrêté, on ne peut plus parler de boues rouges, puisqu'en fait, le parc national avec l'État a obtenu en fait l'arrêt du rejet solide.
Alors c'est vrai qu'il n'y a plus le boue rouge.
Voilà. En fait, c'est l'alumine. L'alumine, en fait, c'est une industrie de pointe. C'est en fait tous les matériaux qu'on va retrouver ensuite dans nos smartphones ou dans nos tablettes à partir d'un gisement qu'est la bauxite. Et après, le process industriel fait qu'il y a un rejet qui se retrouve dans le parc national.
Alors 45 km de tuyaux qui est à peu près.
C'est ça, 45 minutes de traite, et puis ensuite 7 km en mer, effectivement.
Bon, alors donc, depuis... maintenant, qu'est-ce que l'on rejette et qu'est-ce que l'on ne rejette plus? Donc on ne rejette plus directement la boue rouge.
Voilà. Ben après, donc maintenant reste la partie liquide du rejet. Et là, tout récemment, le rejet maintenant est arrivé dans les normes européennes. Donc voilà. Donc en fait, depuis 2015, 99% du rejet a été arrêté, ce qui est déjà vraiment notable. Le rejet a atteint les normes européennes.
Voilà. Bon, il y a même des trucs quand même qui sont autour, qui sont là.
Après, dans les sédiments, ça a perdu pendant 50 ans. Donc pour moi, ce rejet en tant que citoyen, c'est quand même un scandale qu'on ait mis autant de temps à l'améliorer et à viser son arrêt. Il a fallu qu'on crée le parc national pour qu'on arrive à ça. Parce que souvent, on tape sur le parc national. Le rejet existait bien avant.
Bien,
je peux vous dire que si le parc national n'avait pas été créé, rien n'aurait été fait encore. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Mais je pense que le fait qu'il y ait le parc national, c'est monté assez haut.
Ça a accéléré le mouvement.
Et ça a permis d'accélérer les choses.
Ouais, ça marche.
Ah, d'un seul coup, ça swing beaucoup moins. Normal, on est à terre. Hop.
Bonjour.
cale, cale longue, calanque. On a sans arrêt, on va dire, le calcaire hein, qui est là, dans les
monts. Et ouais, c'est vraiment la particularité du site. Après, il ne faut pas oublier le Cap Canaille. Hein. Il y a le site qui est beaucoup plus loin ici, qu'ici. Hein. On est sur un autre type de roche, de lieu. Voilà. Mais effectivement, après, ce qui fait la particularité du parc national, c'est la roche calcaire, la roche très blanche. Et ce qui fait aussi qu'on trouve une végétation très particulière, puisque c'est un des sites les plus arides de France. Et donc on se retrouve avec des espèces qui sont adaptées à ce type de milieu très contraignant.
Alors c'est une lutte incroyable hein, entre le végétal, le minéral. Genre la moindre goutte qui va tomber, et Dieu sait si elles sont rares ici, elle va être captée.
Et ouais, parce captée par les plantes. Bah, d'ailleurs là ici, vous avez juste devant nous une cinérée maritime. Donc voilà, donc sur les feuilles, on retrouve tout un système de duvet pour capter l'humidité au lever du jour. Quand on est en été, effectivement, il y a peu d'accès à l'eau. Donc tout est fait pour qu'on puisse capter un maximum d'eau.
Et puis il y a quand même aussi la culture du cabanon. Et alors là, en fait, ça a été toutes les classes sociales qui se sont mêlées.
Et oui, alors le cabanon, c'est un usage qui est un peu plus récent. En fait, à l'origine, c'était des cabanons de pêche. Hein,
ouais.
Et qui sont ensuite devenus des lieux de villégiature. Et voilà, ce qui est devenu un peu un art de vivre à la marseillaise. Hein.
À la gloire de mon père.
Voilà, et on est à la porte de la deuxième ville de France, mais voilà, on est dans un paysage de bout du monde, incroyable. Avec des cabanons où parfois on n'a pas l'eau, pas l'électricité, pas le téléphone. Voilà, donc.
Ah, il y a le truc qui passe pas encore en radio, c'est les odeurs. Alors là, il faut imaginer. Un coup de soleil là-dessus.
On est à proximité du pain d'Alep. Juste à côté, on a le pistachier lentisque, des odeurs très particulières.
On va s'écraser ça sur les narines. Alors, vous l'avez compris, on a quitté la mer. On est sur la partie terrestre, là, de ce morceau de terre, j'allais dire terre folle, quoi. C'est incroyable, avec beaucoup de grottes que l'on voit.
Et oui, c'est un milieu karstique, donc on a... Ce patrimoine de grottes qui est très très important, que ce soit sur le milieu terrestre comme sur le milieu marin.
Ouais.
D'ailleurs on le voit avec la grotte Cosquer, mais il y a beaucoup de grottes sur le milieu sous-marin autour du corail. En parlant, c'est vraiment quelque chose d'assez unique parce que sur ce petit territoire du parc national des Calanques, on voit bien pourquoi on en a fait un parc national, hein, entre le patrimoine naturel, paysager avec les Calanques, patrimoine naturel marin, terrestre, et puis aussi cette culture avec ce passé historique avec la grotte Cosquer.
Merci à Patrick Bonhomme et à Mathieu Humbert donc de ce parc national des Calanques. Alors à propos de Calanques, si vous le souhaitez, un ouvrage qui est très bien fait aux éditions Gidetat, qui s'appelle tout simplement Calanques, de Florent Favier et Philippe Richaud. Vous avez tout sur le site de CO de Mon Amour, que vous pouvez aussi réécouter comme vous le souhaitez en podcast. Et aussi, merci à Juliette Delperroux pour son mixage.
CO de Mon Amour.
Au nom de la loi, ouvrez !
Il est là, il est là !
Denis Chessou.
En plongée, 20 mètres.
En plongée, immersion, 20 mètres.
Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Oh, nous allons nous noyer.
Sur France Inter.
Mais non, on va y arriver, on va y arriver. Et puis, c'est pas fini, parce que quand même, le vieux port, bien sûr, c'est une ancienne calanque. Et donc, nous appelons une femme originaire de Marseille, comédienne. Elle vit aussi dans les calanques. Bonjour, Ariane Ascaride.
Bonjour, Denis.
Alors, les calanques, c'est l'endroit, en fait, où vous excluez, vous le dites, du monde, sans mettre jamais de chaussures. Il y a des odeurs, on l'a bien compris. Tout est puissant. À quoi ça ressemble autour de chez vous?
Alors, il y a du blanc, il y a du vert, le vert des pins, il y a le bleu de la mer et le bleu du ciel. Et il y a aussi du rouge, parce que dans la calanque où je suis, moi, il y a de la terre rouge et puis à un moment donné, hop, ça va redevenir blanc, le blanc du calcaire. Et c'est, vous savez, je vais vous dire une chose très simple. La première fois que je suis allée en Grèce, je me suis retrouvée dans un petit village. J'ai dit, ah oui, c'est très très beau, mais oui, mais c'est comme ma calanque. Voilà. Il y a quelque chose qui a à voir avec l'éternité, il y a quelque chose qui a à voir avec l'essentiel de ce qu'est la Méditerranée, le bassin méditerranéen. Et il y a aussi un rapport entre les gens dans cette calanque, les gens qui ont des cabanons, qui est un rapport d'humanité, l'humanité pure, quoi. Alors des fois on se dispute, après on mange tous ensemble, on rigole, on fait pas de bruit pour le voisin le matin si on se réveille plus tôt parce que le voisin il s'est couché tard, on surveille les enfants de tout le monde, les enfants dans cette calanque sont les rois avant tout, et c'est le paradis des enfants, quoi.
Alors, il y a celle que l'on connaît, il y a Morgiou, il y a Sormiou, d'ailleurs, où la grotte Cosquer a été mise à jour, il y a Pormiou, il y a Calelongue.
Ah ben la mienne, elle n'est pas du tout là.
Ah, très bien.
La mienne, elle n'est pas du tout là. Elle est de l'autre côté.
Et elle ressemble, elle est petite, elle est grande, elle est...
C'est le bout du bout, la mienne, après il n'y a plus de route. Et elle est... Non, elle n'est pas très grande, hein, non. Il n'y a pas de très grande calanque. La plus grande calanque qui est, bah, ça s'appelle Marseille. Parce qu'au fond, Marseille, c'est une calanque. Alors le principe de la calanque, c'est comme un tout petit fjord. Voilà. Et la mienne, elle n'est pas très grande, non, pas du tout.
Elle vous chuchote à l'oreille? Vous avez besoin d'elle régulièrement, donc?
Ah oui. Ah oui. Et la fierté, ma fierté, c'est que mes enfants ont besoin d'elle aussi. C'est ça qui est bien. Mes enfants ont grandi. Ce que je raconte toujours, c'est que mes enfants se levaient le matin, enfilaient leur maillot de bain, je sifflais à midi, elles venaient déjeuner, hop, elles repartaient, et elles revenaient le soir, je sifflais vers 7h. Et sur à mesure qu'elles grandissaient, elles avaient le droit de ressortir jusqu'à 9h, et puis après 9h30, 10h30, sur à mesure qu'elles grandissaient. Parce que c'est ça aussi, c'est que le soir, on ressort. Dans cette calanque, c'est des manières de se comporter qui sont presque millénaires, je ne sais pas. Je pense que mes enfants ont eu des vacances d'été qui ressemblent aux miennes. Je ne peux pas dire mieux, quoi.
Ben merci à vous, merci beaucoup donc Ariane Ascaride, merci à Camille Blanès donc, qui a préparé cette émission, à Jérôme Boulet qui l'a réalisé, mais auparavant, les derniers mots de l'émission avec Jacques Bonafé.
Le problème de l'ornithologue moderne, c'est qu'il lui devient difficile de reconnaître un corbeau d'une mouette mazoutée. Gueluc.
Allez, on va se retrouver la semaine prochaine. Et là, on va s'intéresser aux grenouilles. On va aider les crapauds à traverser, vous savez, au moment de la reproduction, pour pas qu'ils se retrouvent embouillis sur les routes avec l'association Le Pivert dans l'Isère. Je vous souhaite un excellent week-end, ou plutôt dimanche, hein, carrément. Et puis, on se retrouvera ce soir, nous, à 19h55, après les petits bateaux.